Nous voici donc au deuxième jour de la retraite, et comme une retraite a pour but essentiel la sanctification de l'âme, et que la sanctification de l'âme se fait selon deux mouvements, à savoir l'éloignement de ce qui nous éloigne de Dieu et l'union à Dieu, eh bien l'éloignement donc de ce qui nous éloigne de Dieu, c'est-à-dire du péché et des occasions de péché du monde, de l'esprit du monde, tout ça fait en gros le premier temps de la retraite, bien que jamais les deux éléments soient parfaitement séparés. Et c'est pourquoi est placé dans les premières instructions de la retraite une instruction sur le sacrement de pénitence, sur le péché, sur le sacrement de pénitence. Donc il est bon de se confesser pendant la retraite pour précisément se repentir, faire œuvre de la vertu de pénitence, de la vertu de charité, et avec une âme purifiée, s'approcher du bon Dieu. Il n'y a pas de temps strictement requis pour la confession. Il faut suffisamment de temps pour la préparer. Donc certaines personnes auront besoin de plus de temps que d'autres, pour mille et une raisons. Et il ne faut pas non plus trop la retarder, parce que ce serait trop limiter la retraite à son aspect, à son premier aspect. Donc nous allons ici aujourd'hui, cet après-midi, parler de du sacrement de pénitence. Alors, pour cela, en fait, je vais simplement reprendre le catéchisme de Saint Pie X. Mais vous savez que le but de la retraite, ce n'est pas d'abord d'instruire, donc ce sera bien sûr une instruction, mais une instruction en vue de la vie spirituelle, et en vue de la préparation à la confession. Donc vous savez bien, d'abord, donc on va commencer par quelques généralités, ensuite nous parlerons des différentes parties de la confession, c'est-à-dire l'examen de conscience, la contrition, le bon propos, l'accusation des péchés, l'absolution, et puis l'après-sacrement, avec la satisfaction, la pénitence. Donc d'abord, quelques rappels généraux. Vous savez que la pénitence, c'est le sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour remettre les péchés commis après le baptême. Le baptême nous remet tous les péchés, péchés originels, péchés personnels, actuels. Mais, il se trouve que, parfois, il y a nécessité absolue de retrouver la grâce baptismale, parce qu'on a commis un péché mortel, ou même s'il n'y a eu que des péchés véniels, il y a nécessité de les pardonner, c'est une nécessité moindre, mais les voir pardonner, et donc de recourir à un sacrement. C'est un sacrement, et comme tout sacrement, c'est un signe sensible. Vous voyez que le bon Dieu, pour nous donner son pardon, pour nous montrer qu'il nous donne sa grâce, c'est que nous sommes des êtres humains, faits de chair et d'eau, et donc nous avons besoin de signes sensibles. Et le sacrement de la confession est d'abord un signe et en plus une cause de grâce, c'est-à-dire qu'il va nous donner la grâce du pardon, et il va la signifier. C'est signifié en particulier par ce mot du prêtre, qui est le grand signe sensible, « Je t'absous de tes péchés, je vous absous de vos péchés, je vous lave, je vous pardonne vos péchés, je vous les absous. » Nous entendons le prêtre dire cela, nous savons que nous sommes pardonnés. Vous voyez, il y a ce lien entre l'écoute de la parole du prêtre, donc il y a l'accusation des péchés, sur ces péchés qui forment ce qu'on appelle la matière du péché, la matière de confession, sur ces péchés, le prêtre parle. « Je vous absous de ces péchés. » Ça, c'est ce qu'on appelle la forme, on y reviendra dans un instant. Et donc, quand je vois, quand j'entends, moi-même j'ai dit les péchés, j'ai entendu le prêtre qui m'a dit « Je vous absous de vos péchés », j'ai écouté, je sais. Je sais que ce que j'ai écouté est un signe de la grâce qui m'est donnée. Voyez. Donc, c'est un signe sensible et c'est un grand secours. C'est comme ça qu'il faut aller à la confession, voyez, en se disant « Le bon Dieu a voulu me donner un signe de sa miséricorde ». Un signe qui me donne cette certitude que je suis pardonné. Et donc le sacrement de pénitence, nous devons y aller avec ce désir d'être sûr du pardon, et donc sans d'ôter les inquiétudes de notre âme. Vous voyez, ceux qui n'ont pas la confession ont l'âme toujours inquiète parce qu'ils ne savent pas s'ils sont pardonnés. Le catholique ne doit pas, au sortir de la confession, avoir l'âme inquiète. Au contraire, il doit avoir l'âme apaisée, l'âme tranquille. Précisément parce qu'il a eu ce signe. C'est un signe certain. Le prêtre l'a dit, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis certain. Vous voyez, donc c'est cette paix. Donc le sacrement de pénitence doit être un sacrement de paix. Sortir du sacrement de pénitence avec une âme inquiète, troublée, eh bien ce n'est pas dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça peut arriver, mais essayons de ne pas faire cela, de vraiment nous correspondre à la volonté du bon Dieu, ce qui est de nous mettre dans la paix de l'âme pardonnée. Je me rappelle deux petites anecdotes. Une fois, je parlais avec un jeune homme qui était protestant, et il me disait, mais vous ne savez pas la chance que vous avez dans l'Église catholique d'avoir la confession. Et l'année dernière, pendant l'été, donc j'ai eu une discussion avec un prêtre, un curé de paroisse moderne, d'ailleurs un curé qui est tout à fait dans le vent moderne, très 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 favorable à l'œcuménisme. Et alors, il disait que donc à Pâques, il avait secoué ses ouailles en leur disant attention, pour se communier, il faut en être en état de grâce. Je vous rappelle que quand on a fait un péché mortel, il faut se confesser. C'est bien d'avoir dit ça. Et puis alors il disait, on aimerait qu'il le dise plus souvent. Bon. Et alors il disait aussi, j'ai confessé plus de protestants que de catholiques pour Pâques. Alors il est dans une région c'est le Gard, c'est les montagnes Cévenoles, c'est un fief protestant, hein. Une résistance protestante très forte pendant les guerres de religion, et donc sont des calvinistes. Il y a au moins la moitié des habitants qui sont des calvinistes. Et alors les calvinistes vont à lui parce qu'ils ont besoin de la confession. Ils ont besoin de dire leur péché. Alors évidemment, un prêtre qui ferait les choses comme l'Église les veut, les préparer à devenir catholique en leur disant, écoutez, si vous avez besoin de la confession, c'est bien parce que vous avez besoin d'une autre religion, d'une vraie, etc., etc. Bon, avec d'autres mots, évidemment, mais en substance, c'est ça que ça voudrait dire. Et là, non. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il les écoute. Donc, il les accuse de leur péché. Je lui demande, qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais je les écoute. Et puis après, quand ils ont accusé leur péché, je leur donne une formule d'absolution calviniste que j'ai trouvée dans un recueil de prières calvinistes. Parce qu'il est abonné à des recueils et à des revues de prières calvinistes. Pour vous dire d'ailleurs jusqu'où va le mal, ce prêtre, qui est d'ailleurs un ancien abbé de monastère, qui a du mérite sans doute, il ne s'agit pas de l'accabler, mais a assisté à une cérémonie dans un temple qui était faite par un pasteur protestant. Il a écouté la prédication du pasteur protestant. Et je passe sur certaines choses, parce que le pasteur protestant a prêché sur... peu importe, et il a dit après, bon, maintenant je vais laisser parler mon confrère catholique, mon confrère curé catholique. Il est descendu, il lui a dit, viens donc en chair, avec l'accent du Sud. Et alors, le curé est monté en chair, et il a commenté un texte de la Sainte Écriture avec des pensées qu'il avait trouvées la veille dans une revue de prières protestantes. On est dans une complète confusion des esprits. Complète confusion des esprits, c'est une catastrophe. Enfin. Et alors donc, pour dire que les calvinistes, donc, s'ils vont à ce sacrement, c'est bien qu'ils ont un désir de ce besoin. Ça correspond à un besoin de la nature humaine. Non pas que le sacrement de la pénitence soit quelque chose de naturel. C'est essentiellement surnaturel. Mais ce signe sensible, le côté signe sensible, dit saint Thomas d'Aquin, eh bien, c'est conforme à la nature humaine. Et il est nécessaire pour nous pardonner nos péchés, voyez, de façon ordinaire. Quand nous avons certaines choses dans notre vie passée qui nous gênent, des soucis, des rancunes, des épreuves, on peut s'en débarrasser d'une façon ou une autre par l'oubli, le pardon, le divertissement. Mais ça n'est pas la même chose pour les péchés. On ne peut pas se débarrasser de ces péchés comme ça, voyez. Parce que le péché, c'est un désordre qui touche à Dieu. Et nous n'avons pas pouvoir sur Dieu et sur l'ordre divin. Donc, ce qui va nous ôter nos péchés, c'est la grâce divine et c'est le sacrement. On ne se débarrasse pas du péché par des méthodes psychologiques. C'est particulièrement vrai, par exemple, des femmes qui ont avorté. Ceux qui participent à des... ceux qui participent au combat contre l'avortement savent très bien, mieux que d'autres, peut-être que les dames qui ont avorté, eh bien, souvent ont beaucoup, beaucoup de difficultés à porter ça plus tard. Et c'est déjà très difficile, c'est déjà difficile lorsqu'on n'a pas la grâce du bon Dieu, mais lorsqu'en plus on ne recourt pas au sacrement de pénitence, alors c'est impossible, vous voyez. Le sacrement de pénitence, évidemment, n'enlève pas tous les effets d'un péché comme celui-là, puisque c'est terrible, mais il y a un effet clairement qui n'est pas enlevé. Le petit enfant, il est mort, bon. Mais par contre, il enlève le péché, le poids du péché, c'est immense, vous voyez, c'est immense. On sait que Dieu a pardonné. Il ne faut pas être plus sévère que Dieu, envers soi-même. Il ne faut pas être plus sévère envers soi-même que Dieu ne l'est envers nous-mêmes. Dans ce sacrement, c'est la vertu du nom de Jésus, je cite saint Thomas d'Aquin, mourant et ressuscitant. C'est par la vertu du nom de Jésus mourant et ressuscitant que ce sacrement opère la rémission des péchés. Voyez, c'est la vertu de Jésus mourant et ressuscitant qui opère dans ce sacrement. C'est le sang de Jésus-Christ qui, métaphoriquement, coule sur nous. Quand nous allons au sacrement, nous n'allons pas voir une personne, monsieur l'abbé Dupont, monsieur l'abbé Durand, pour lui dire ce que nous avons fait, ce qui n'est jamais agréable humainement. Nous allons au pied de la croix pour recevoir le sang de Jésus-Christ qui mystiquement coule sur nos âmes. Alors, la théologie catholique dit toujours que dans tout sacrement, il faut distinguer deux éléments, ce qu'on appelle la forme et la matière. La forme qui vient sur la matière, si vous voulez, pour constituer le sacrement. Alors, la matière, essentiellement pour le sacrement de pénitence, alors on distingue la matière éloignée, la matière prochaine. La matière éloignée, c'est les péchés. Les péchés. C'est ça qu'on accuse. Mais les péchés ne sont pas là en tant que tels. Ils sont là qu'en tant qu'ils sont accusés. C'est l'accusation des péchés qu'on apporte. Donc la matière prochaine, c'est l'accusation des péchés, la contrition, la satisfaction. C'est-à-dire ce qu'on appelle les actes du pénitent. Donc vous avez la matière et la forme. La matière, il y a la matière éloignée, ce sont les péchés. Et la matière prochaine, ce sont les actes du pénitent, c'est-à-dire la contrition, l'accusation et la satisfaction. La contrition, la douleur, donc, l'accusation et la satisfaction. Et puis vous avez la forme du sacrement de pénitence, c'est la parole du prêtre. Je t'absous de tes péchés. Avec des rappels de catéchisme, hein. Donc matière, matière éloignée, matière prochaine. Matière éloignée les péchés, matière prochaine les trois actes du pénitent. Forme, la parole du prêtre. Le principal des saint Thomas dans toute chose et dans un sacrement en particulier, c'est la forme. Donc, comme nous le verrons, le principal, c'est d'abord ce que fait le prêtre et non pas ce que fait le pénitent. Je vous le dis pour mémoire, nous y reviendrons. Alors ensuite, après ces rappels généraux, nous allons passer à quelque chose qui prépare la confession, donc qui prépare les actes du pénitent. C'est l'examen de conscience. Alors, je ne peux pas tout vous dire sur l'examen de conscience, ce qu'on trouve dans le catéchisme. Mais, à partir du moment où le sacrement est une chose chrétienne, donc une chose surnaturelle, l'examen de conscience doit être aussi surnaturel. Et donc, il doit être l'œuvre de la grâce en nous, voyez ? Dès le principe, dès l'examen de conscience, c'est la grâce qui agit. Donc il faut faire l'examen de conscience sous la motion de la grâce. Il ne s'agit pas de faire une sorte d'enquête naturelle, vous voyez, comme un épicier qui fait ses comptes, de nos péchés. On n'est pas sur le plan naturel. Il y a des actes naturels qui vont intervenir, mais c'est essentiellement surnaturel. Et donc il faut bien se mettre sous la motion divine, bien prier le bon Dieu avant notre examen de conscience, pour nous éclairer. Sur quoi doit porter l'examen de conscience ? Sur les péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Donc c'est essentiellement sur les péchés. Alors on peut, et on va s'examiner également sur les mauvaises habitudes et les occasions de péché, mais ce ne sera pas ce qui fera la matière de la confession. Voyez. Alors ça, c'est une petite chose importante, c'est qu'attention, quand on se confesse, on ne se confesse pas d'abord d'habitude, mais de péché. Donc, en confession, il ne s'agit pas de dire, par exemple, « je suis orgueilleuse », voyez, ou « je suis gourmand ». Bon, vous pourrez le dire, si vous voulez, c'est pas grave, mais... J'ai péché par gourmandise, voilà. J'ai péché par orgueil. Et mieux encore, dire dans quelles circonstances on a péché. Alors là, il y a un équilibre à trouver. Il s'agit de ne pas être trop général d'une part et pas trop précis d'autre part. Donc pas trop général, c'est-à-dire ne pas simplement faire une liste, par exemple, des 7 péchés capitaux. En disant, voilà, je suis envieuse, gourmande, paresseuse, etc., les 7. Parce que de toute façon, tout le monde a les 7 péchés capitaux. Bon, que vous n'apprendrez rien aux prêtres, vous voyez. Mais par contre, il s'agira de dire, voilà, par exemple, il y a telle personne qui réussit mieux. Par exemple, je trouve qu'elle éduque mieux ses enfants. Ou alors, elle n'a pas de soucis. Moi, j'ai plein de soucis dans la famille, et il me semble que telle et telle autre personne n'a pas de soucis, vous voyez. Ou alors... J'ai péché par gourmandise parce que, assez souvent dans la journée, j'ai pris des petites choses, j'ai bricolé entre les repas. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont concrètes, voyez. J'ai péché par paresse, parce que y a un de mes devoirs qui me coûte et régulièrement quand je le fais je le mets en dernier ou alors je l'omets, voyez, telle chose. Voilà, ça c'est important parce que ça aide le prêtre à mieux vous connaître et mieux vous conseiller, voyez. Évidemment, ça c'est pour l'accusation. Pour l'examen de conscience, il est bon de rechercher non seulement ses péchés mais surtout ses habitudes. On pourrait le dire aussi en confession, vous voyez. J'ai tel défaut, voilà mon défaut dominant, voilà ceci, j'ai plutôt l'habitude de cela. Ça, par exemple, je pêche beaucoup plus par envie que par gourmandise. Voilà, bon, ça c'est intéressant pour le prêtre, ça peut l'aider à vous aider. Mais en examen de conscience, si la confession, donc, pour résumer, si la confession doit porter principalement sur les péchés, beaucoup plus que sur les habitudes, dans l'examen de conscience, alors il faut... Bien sûr, s'occuper des péchés, mais plus encore s'occuper des habitudes pour déraciner les défauts. Voyez, et donc, c'est un examen de conscience. Donc, il faut examiner votre conscience, donc votre âme. Voyez, ce qui va, ce qui ne va pas. Quelles sont mes habitudes? Quelles sont mes tendances? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon âme? Quelles sont les occasions de mes péchés? Pour la confession, ce qui est requis, nous parlons ici de l'examen de conscience de la confession, c'est de confesser tous les péchés mortels avec le nombre, et il est conseillé, donc si on n'a pas de péché mortel, il faut accuser nécessairement au moins un péché véniel. Si on a des péchés mortels ou un péché mortel, alors il n'est pas nécessaire d'accuser les péchés véniels. Mais il peut être bon d'en accuser. Alors, quant aux péchés mortels, à l'accusation des péchés. Les péchés mortels, encore une fois, c'est clair, il faut tout accuser, donc il faut tout regarder. L'examen de conscience doit être complet. Quant aux péchés véniels, ce n'est pas le cas. Et que ce soit en confession ou même le soir, lorsqu'on fait son examen de conscience du soir, parfois même il ne sera pas conseillé de regarder tous les péchés véniels. Parce que si nous faisons un petit peu l'examen de conscience, pour ainsi dire, de nos examens de conscience, nous apercevrons peut-être que tous les soirs, peut-être nous avons fait des examens de conscience, mais que nous retombions le lendemain de façon à peu près égale dans les mêmes péchés. Et alors c'est peut-être parce que nous passons trop de temps à faire un examen complet. Mais mieux vaudra, dans certains cas, ne pas faire nécessairement un examen complet tous les soirs. Mais plutôt faire un examen plus rapide ou plus spécial. Plus rapide parce que... je sais très bien qu'aujourd'hui il y a eu deux, trois événements dans la journée dans lesquels j'ai fait des fautes. Bon, je me suis disputé avec ma sœur. Je suis allé beaucoup trop vite en voiture. Ça arrive plutôt aux messieurs ou aux abbés qu'aux dames. Je suis allé beaucoup trop vite en voiture. J'ai fait une dépense inutile. Voilà. Bon. Alors. Donc tout de suite, ça m'a marqué, j'y ai pensé. Mais voilà, ça vous a marqué, vous y allez avoir retenu, mais ce n'est pas la peine de passer son temps ensuite à revoir ce qu'on a pu oublier, ce d'autres fautes qu'on a pu faire. Plutôt, concentrer ses efforts sur ces trois fautes-là. Donc ça, c'est s'il y a des péchés qui vous sautent aux yeux dans l'examen de conscience, immédiatement, en raison de votre journée. Bon, parfois, rien ne vous sautera aux yeux. Bon, je ne me rappelle rien de particulier. Alors là, plutôt que de faire un examen complet, pour apprendre un domaine particulier. Tiens, ben bon, je vais m'interroger aujourd'hui sur mon exactitude dans mes devoirs religieux. Est-ce que j'ai bien fait mes prières? Voilà, simplement. Je repasse mes prières en vue. Est-ce que j'ai bien fait mes prières? Ma prière du matin, est-ce que je l'ai bien fait de tout mon cœur? Ou est-ce que j'étais un peu trop pressé d'aller préparer le petit déjeuner? Mon angélus, est-ce que je l'ai fait? Bon, évidemment, il n'y a pas de péché strict à ne pas dire sa prière du matin, un jour, ni l'angélus, un jour. Il n'y a pas de péché strict, il n'y a pas de commandement de Dieu. Mais il peut y avoir un péché par paresse derrière, enfin bon, on ne peut pas tout dire. Mais... Donc, vous voyez, spécialiser l'examen de conscience. Et ensuite, ou bien qu'il y ait des péchés qui nous sautent aux yeux immédiatement, ou bien qu'ils soient le résultat d'un examen de conscience un peu plus spécialisé, peu importe, ces péchés qui seront peut-être 1, 2, 3, c'est déjà beaucoup. Restons dessus, plutôt que d'aller voir tous les péchés qu'on a pu faire pendant la journée. Alors, restons dessus. Alors d'abord, pour, comme on le verra tout à l'heure, approfondir la contrition. Et puis aussi pour arriver au bon propos. Et puis préparer la journée de lendemain. Ou les futures occasions. Il est bien plus important de sérier 2, 3 fautes et de prendre la résolution efficace de ne pas retomber le lendemain, plutôt que de voir toutes les fautes, d'en avoir très peu de douleur et le redemander le lendemain de les recommencer toutes. Vous voyez ? Et ça sera la même chose pour la confession. Ne pas hésiter à faire des confessions un peu particulières. Bon, ben, cette fois-ci, je vais m'examiner particulièrement sur l'impatience, sur la gourmandise, sur l'égoïsme, sur la colère, sur la désobéissance. Je pourrais en parler au prêtre. Voilà. Je viens m'accuser spécialement aujourd'hui des péchés de désobéissance. Voilà. Donc, dans mon travail, vis-à-vis de mon mari, dans l'exacte mesure de l'obéissance de l'épouse à son mari, etc. Alors, pour ces examens de conscience, donc, vous avez disposé de feuilles ici. Donc, à la sortie, vous pourrez, si vous voulez, en prendre, qui pourront vous aider à faire votre examen de conscience de façon habituelle et particulièrement pour la confession de la retraite. Ces examens de conscience, évidemment, ne seront jamais... complet, absolument complet. C'est impossible de trouver un examen de conscience qui soit absolument complet, vous voyez, parce que c'est toujours proportionné à telle ou telle situation. Il y a beaucoup d'examens de conscience qui sont faits pour les enfants, ou alors pour des temps et des personnes déterminées. Donc, il faut savoir réfléchir par soi-même, et puis lire aussi un petit peu partout, réfléchir par soi-même pour voir un petit peu quelles fautes on peut avoir fait. Voyez par exemple, vol, recel, objet trouvé ou emprunté et non rendu, dommage injuste causé au prochain dans ses biens. Ben, par exemple, on m'a prêté un livre et j'ai traité ce livre avec un soin un peu trop minime. J'ai abîmé ce livre. Alors on peut abîmer un livre par mégarde, vraiment on a pris tous les soins et puis il y a un geste, un faux geste. Bon. Mais on peut aussi abîmer un livre parce qu'on ne prend pas soin des choses. Ben, il peut y avoir une faute. Ou alors j'ai accroché la voiture de quelqu'un dans le parking et puis Alors que j'aurais pu me manifester, je l'ai laissé. Alors que je sais très bien que la personne va avoir des frais. Alors ça, évidemment, c'est pas marqué. C'est à nous-mêmes de faire le rapprochement. Oui. Bon, je présume que vous avez la connaissance des conditions qui font le péché mortel. Vous trouvez ça dans tous les catéchismes. Ordinairement, on sait toujours qu'on a fait un péché mortel. Vous voyez, c'est rare. C'est rarissime, si ça pouvait exister, quelqu'un qui aurait fait un péché mortel et qui en douterait. Le péché mortel, c'est la mort de l'âme. Et on s'aperçoit bien qu'on meurt. C'est pas rien. Ne pas penser, vous voyez, par exemple, parce que vous avez une tentation longue, quelle que soit la nature de la tentation, de seul fait de cette tentation, il y a eu péché mortel. Et ça ne prouve rien du tout. Ni le fait de la fréquence des tentations. La tentation ne prouve pas qu'on est un saint, ni qu'on a péché, mais qu'on est de constitution normale. Alors, lorsqu'il y a un doute sur le consentement ou l'advertance, eh bien, se dire, bon ben voilà, si quelqu'un voyait complètement dans mon âme, qu'est-ce qu'il dirait ? Est-ce que j'ai fait un péché ? Quelqu'un avec un jugement équilibré, à côté de moi, qu'est-ce qu'il me dirait ? Et en général, sa réponse sera la bonne. Ben non, enfin, c'est pas un péché ce que tu as fait. T'as pas consenti. Tu as eu par exemple, des pensées de haine envers telle personne ou de rancune, mais tu as jamais vraiment haï positivement cette personne. Alors, parfois, il peut y avoir vrai péché mortel. Alors, vous voyez, quand on se pose la question, quand il y a un doute sur un péché, c'est la réponse la plus spontanée qui est souvent la bonne. Est-ce que j'ai fait un péché ou est-ce que j'ai pas fait un péché? Et si j'ai fait un péché, est-ce qu'il est grave ou pas? C'est le premier coup d'œil souvent qui est le bon. Et lorsqu'on commence à discuter, à se demander, à analyser plus, et alors c'est là qu'on complique et qu'on voit plus rien. Plus on réfléchit, plus on met du brouillard. Et donc, il ne faut pas faire un examen de conscience trop long. Alors, pour les personnes qui sont scrupuleuses, elles doivent le savoir, eh bien, se donner un temps limité, toujours limité. Et pareil pour l'accusation, d'ailleurs. Mais en général, le prêtre vous limite lui-même. Hein, vous limite lui-même. Vous voyez, par rapport à nos confessions, il faut avoir une attitude, et par rapport au péché, qui soit saine, et sainte. Sainte, c'est-à-dire qu'il faut voir le péché dans sa gravité, avec une douleur profonde et vraie. Saine, parce que ça doit être une douleur surnaturelle et qui ne prenne pas toute la vie, dans le sens où le passé est passé. Donc l'examen de conscience, ça doit faire un temps dans notre vie. On ne doit pas être tout le temps hein, à remuer les péchés, vous voyez. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alors, l'examen de conscience, donc on a intérêt à en faire un tous les soirs. Alors ça, attention, en particulier pour les mères de famille, souvent, on ne donne pas suffisamment aux enfants le temps de faire leur examen de conscience. Donc, ou bien on le fait en famille, ou bien si on ne le fait pas en famille, il faut apprendre aux enfants à le faire ensuite seul. C'est important cet examen de conscience, oui. L'habitude de l'examen de conscience. L'enfant qui a pris l'habitude de l'examen de conscience le soir, ensuite il le prend, quand il était enfant, ensuite il le prendra toute sa vie. Donc vraiment faire prendre cette habitude de l'examen de conscience. Et alors, pour ça il faut un temps suffisant, pas un temps trop court, pas qu'on ait le temps de dire « Ah oui, ça y est, c'est vrai que c'est l'examen de conscience. Ah oui, c'est l'examen de conscience. » Et puis, dès qu'on arrive à se concentrer, hop, ça y est, l'examen de conscience est terminé. Non, il faut un examen de conscience qui soit suffisant, qui ne dure pas 30 secondes, ce n'est pas possible. Alors, il ne faut pas non plus que ça soit comme chez les carmélites. Enfin, moi, j'ai vu à Quiévrain, l'examen de conscience dure au moins 5 minutes, sinon 10 minutes, je ne sais plus. Elles sont longtemps. On se dit, mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien accuser ? Qu'est-ce qu'elles peuvent bien... C'est pour ça qu'elles cherchent longtemps. C'est parce qu'il n'y a rien. Ça prend. Bon, alors évidemment, il ne s'agit pas. Mais ceci dit pour plaisanter, mais il faut donc donner suffisamment de temps. Et le mieux, c'est que les parents fassent leur propre examen de conscience, parce qu'ils verront bien le temps qu'il leur faut. Voyez. Alors on pourra aider. On va aider l'enfant. Voyez. Alors là, il faut être délicat. Voyez, délicat. Bon, ça peut être le père ou la mère qui fait ça. Mais donc, être délicat, c'est-à-dire qu'il faut amener l'enfant. Il faut pas nécessairement revenir, surtout quand l'enfant grandit, sur les fautes qu'il a faites pendant la journée. Il a été désobéissant. Est-ce que j'ai été désobéissant pendant la journée? Est-ce que je n'ai pas cassé la vitre en jouant au ballon dehors? Donc là, il faut faire attention à avoir cette délicatesse. L'enfant sait très très bien s'il a fait une grosse bêtise, voyez. C'est pas la peine de la lui redire. Bon. Par contre, si on sent que l'enfant a tel ou tel besoin, voilà. Mais être léger, délicat. Il y a un domaine qu'il faut savoir respecter dans la conscience de l'enfant, voyez. Il faut savoir respecter sa conscience. À la même temps, surtout quand il est petit, la maman doit aider les premiers examens de conscience, et c'est souvent les mamans qui font. Mais ensuite, tout doucement, il faut savoir lui ménager son jardin secret. C'est important, voyez. L'examen de conscience doit se faire face à Dieu, voyez. Face à soi-même et face à Dieu. Si on le fait face au bon Dieu, avec la grâce du bon Dieu, avec la lumière divine, alors c'est pas quelque chose de sec. C'est la sainteté divine qui nous montre notre manque de sainteté. Ensuite, parlons de la contrition. C'est une douleur. Contrition, ça veut dire broyer, avoir le cœur broyé. Alors, dans ce mot, deux choses à comprendre. Ça doit être une vraie douleur, c'est-à-dire un vrai déplaisir de l'âme, une vraie détestation du péché. Mais ce n'est pas nécessairement une douleur sensible. Et donc, ne pas se dire, mais je ne souffre pas, je n'ai pas d'impression désagréable et sensible, je ne pleure pas. Bon. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas de contrition, ça n'a rien à voir. Le meilleur test de la contrition, c'est est-ce que je suis résolu, avec la grâce du bon Dieu, à ne plus recommencer? Alors ça, si vous dites oui, ça y est, vous avez la contrition. Parce que le meilleur test de la détestation du péché, c'est la volonté de ne plus recommencer à l'avenir. Ou alors, est-ce que je suis content de l'avoir fait ou est-ce que je voudrais ne jamais l'avoir fait? Est-ce que je préférais n'avoir pas fait ceci? Oui, alors c'est bon. Contrition. C'est ça la détestation, voyez. Alors c'est une grâce aussi qu'il faut demander au bon Dieu, voyez. Alors les auteurs disent s'exciter, mais enfin, attention, s'exciter à la contrition, il ne s'agit pas de serrer les poings, il s'agit surtout d'avoir des considérations surnaturelles sur la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, sur sa charité pour nous, sur nos devoirs de sainteté, de perfection, d'obéissance au commandement de Dieu. Et en même temps, ça doit être une... ça doit être une grâce du bon Dieu. Il faut la demander. Il faut la demander. C'est ce qu'il y a de plus nécessaire dans les actes du pénitent. Voyez, plus que tout, c'est la contrition qui se manifestera ensuite par le bon propos, la volonté de mieux faire. Demandons la grâce en particulier au bon Dieu d'avoir cette contrition habituelle. Ce n'est pas un examen de conscience habituel, hein. C'est pas la même chose. L'examen de conscience ne doit pas être habituel. Mais la contrition, elle doit être habituelle, c'est-à-dire qu'en fait, il nous est bon pour nous d'avoir toujours au fond du cœur ce souvenir que nous sommes des pécheurs. C'est pas un souvenir aigri, malsain, c'est un souvenir paisible, mais humble de l'enfant qui se souvient qu'il a offensé son père. L'enfant prodigue, sans doute, n'a jamais oublié de toute sa vie, s'il a jamais existé, Hein, mais s'il avait existé, il n'aurait jamais oublié de toute sa vie que ce qu'il avait fait dans le passé. Voyez. Ça doit être un peu la même chose pour nous. Cette compunction donne est une grande source d'humilité. Voyez. Une grande source d'humilité. Et de stabilité spirituelle. Par exemple, dans l'épreuve, voyez, celui qui est contrit, et mon Dieu, la vie est forte en épreuve, en joie aussi, mais en épreuve, eh bien, dans l'épreuve, celui qui n'a pas la contrition habituelle réagit moins bien. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Pourquoi est-ce que tout m'arrive en même temps? Mon enfant qui tombe malade, mes examens que j'ai ratés, ceci, cela, etc., les difficultés de santé. Pourquoi? Alors, je vais essayer de tenir. Et alors, vous voyez, l'âme qui est contrite, en fait, lorsqu'elle voit tout ça arriver, les voit d'abord comme une miséricorde du bon Dieu et comme le moyen d'expier ses péchés, de faire du bien au prochain. Et donc, ça la laisse dans une profonde paix, même dans la souffrance. Saint Nicolas de Myre, lorsqu'une fois, il a rencontré quelqu'un, on l'a vu dans une église, quelqu'un l'a approché et lui dit « Qui êtes-vous ?» Première fois qu'il rencontrait cet homme. « Qui êtes-vous ? » Un pécheur. Premier cri. Il s'est présenté comme ça. Un pécheur. Imaginez, dans une invitation, vous rencontrez quelqu'un à qui ai-je l'honneur ? Un pécheur. Mais ça, c'était bien un signe voyez, un signe d'une disposition profonde de l'âme. C'est pas ses péchés qui l'intéressaient. C'est pas ça. C'est Dieu, la grandeur de Dieu et sa petitesse. La contrition mène au bon propos. C'est la quatrième partie, après les généralités, l'examen de conscience, la contrition. Le bon propos. Volonté résolue de ne jamais plus commettre les péchés et d'employer les moyens nécessaires pour le fuir. Volonté de ne plus commettre le péché et d'employer les moyens nécessaires pour le fuir. Alors ça, il faut bien travailler. Vous voyez, c'est pareil. Si vous avez fait un examen de conscience qui est court, alors vous ne perdez pas trop de temps et donc vous pouvez concentrer vos efforts précisément sur le bon propos par rapport à ces quelques fautes que vous avez vues. Bon, pour revenir aux exemples qu'on a vus tout à l'heure, par exemple, voyez, bon, tiens, encore aujourd'hui, j'ai grignoté le matin alors que je pouvais très bien m'en passer et puis l'après-midi. Voilà. Bon. C'est tout, non? Demain, qu'est-ce que je vais faire? Alors, d'abord contrition. Seigneur mon Dieu, pardon. Pardon. Pour des petites choses comme ça? Mais oui. Qu'est-ce que c'est la définition du repas? C'est le moment où l'on mange. Et donc, si je mange en dehors des repas, je mange à un moment où on ne mange pas. C'est un désordre, quoi. Ou alors, le repas est une journée. La journée est un repas, pardon. Vous voyez? Alors, évidemment, et donc, sauf s'il y a des moments, des moyens, des difficultés particulières. Bon, il y a des hommes qui font des travaux très physiques, qui ont besoin de se restaurer à telle heure. Ou alors, il y a des moyens, des gens qui font de l'hypoglycémie, tout ça. Bon attention, hein, il y a beaucoup de gens qui sont hypoglycémiques. Mais bon, bref. Donc, et bien, le bon Dieu ne n'aime pas. Parce que ces choses-là, il me les a données pour que j'en use à des moments déterminés. Voilà, c'est tout. Pour mes besoins. Mes besoins, je les satisfais à table, et puis c'est tout. Donc c'est une faute. Alors qu'est-ce que je vais faire demain? Alors demain, je prends la résolution de ne plus manger entre les repas. Voilà. Alors si je sens que ça va être trop difficile, et c'est moins facile pour une personne qui vit toujours à la maison, une jeune fille qui est toujours chez elle, par exemple, ou c'est beaucoup plus facile pour elle de manger toute la journée que pour un homme qui travaille dans une entreprise, c'est clair. Donc si je sens que je n'y arriverai pas, c'est trop me demander, c'est possible, hein, eh bien, je restreins. Donc demain matin, entre 10h et 10h15, je ne mangerai pas. Ben, si 10h et 10h15, c'est le moment où vous mangez, ben, c'est bien. Il ne faut pas manger à 10h30, il y a 10h moins le quart. Et restreindre, mais prendre un bon propos. Ou alors, je sais que chaque fois que j'ai du chocolat d'avance, eh bien, j'en prends. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que j'ai du chocolat d'avance, c'est tout. Et donc, je n'achète plus de chocolat. Les messieurs, ça serait bien qu'il ne faut pas acheter de cigarettes quand on veut éviter de fumer. Les dames aussi. Donc, fuir les occasions dangereuses, vous voyez. C'est important, vous voyez, en particulier par rapport à la fidélité dans le mariage, la fidélité conjugale, qui est évidemment un devoir mille fois plus important que d'autres. C'est important d'avoir cette fermeté du cœur. Fermeté du cœur. Alors attention aux amitiés. Avec tel monsieur, on s'entend bien, et puis je le soutiens, lui-même est divorcé, donc j'ai besoin de l'aider, je suis son ami, mais je sais que c'est un danger parce que la relation a tendance à dévier, etc., etc. Ah oui, mais alors, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de l'aider, ou est-ce que c'est de préserver votre foyer? Et là, il faut savoir couper avec les occasions dangereuses. Si on sait très bien devant Dieu et en conscience qu'on peut continuer à avoir telle relation, qu'il n'y a pas de danger de sa part à soi-même, et qu'on peut lui faire du bien, qu'il n'y a vraiment pas une occasion prochaine de pécher, alors bon, y aller prudemment. Si on pense qu'il y a un danger de son côté, alors il n'y a pas, et qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que de couper, il faut couper. Nous sommes gravement, dit le Scatchim de Saint-Pilice, obligés de fuir les occasions dangereuses qui ordinairement nous portent à commettre le péché mortel. Ensuite, il y a la confession. 1, 2, 3, 4, 5e partie, la confession. Donc, la confession, c'est l'accusation de ce qu'on a vu dans l'examen de conscience. Elle doit être prudente et brève. Donc prudente, c'est-à-dire que, dit le catéchisme, on doit employer les termes les plus modestes et nous bien garder de découvrir les péchés des autres. Bon, là, évidemment, la confession, c'est pas l'accusation des péchés du voisin, mais parfois, il se peut qu'on soit obligé de parler, incidemment des fautes d'autrui pour pouvoir faire comprendre au confesseur ses propres fautes. Ça arrive. Quand je suis avec telle personne qui m'incite à médire, eh bien, à chaque fois, je tombe. Donc, c'est pas moi qui me souviens, c'est l'autre que vient l'initiative, mais bon. Bon, alors, mais il faut pas dire le nom de la personne, évidemment. Et puis, il faut employer les termes les plus modestes, vous voyez. Là, il y a encore de l'équilibre, donc, il faut à la fois, vous voyez, être simple et être prudent. Donc, être simple, c'est-à-dire voir qu'on parle au bon Dieu, et donc ne pas se compliquer la vie et dire les péchés avec leur intégrité, tout ce qui est nécessaire à ce qu'on appelle l'intégrité. Donc, comme on parlerait au bon Dieu, voilà, qu'on parlerait au bon Dieu, voyez, tranquillement, voyez, c'est ce qui est nécessaire. Et en même temps, ne pas rentrer dans trop de détails et puis employer des mots modestes. Voyez. Si on a de la difficulté, dire au prêtre la difficulté. Lui expliquer qu'on n'arrive pas à dire les choses et puis qu'il nous aide. Et puis c'est tout, et voilà. Y aller bien simplement, tranquillement. Voilà, confession. Alors, de façon générale, pour la confession, c'est la confession qui fait que l'on a parfois des difficultés à se confesser. Deux difficultés apparaissent particulièrement. La première, c'est les personnes qui ont redoute de se confesser parce qu'elles accusent toujours les mêmes fautes, même si ce sont des fautes pas graves. Et qu'elles, bon, alors, le fait d'accuser toujours les mêmes fautes, spécifiquement, ça c'est pour tout le monde pareil, parce que beaucoup de nos fautes sont liées à notre état de vie, à des circonstances, à notre tempérament. Et on garde toujours le même tempérament. Donc c'est normal, vous voyez. Enfin, c'est pas bien, mais c'est normal, c'est logique. Par contre, évidemment, le plus difficile, c'est lorsqu'on a l'impression qu'on n'avance pas. C'est que ces mêmes fautes spécifiquement, numériquement, elles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas moins. Eh bien, ça n'empêche pas qu'il faut aller se confesser, voyez. C'est comme l'enfant, même si votre enfant ne progresse pas en faisant de certaines bêtises, eh bien, c'est pas pour autant qu'il faut que lorsqu'il les commette, il arrête de vous demander pardon. Non, on continue, c'est tout. On vient pas d'abord pour progresser, dans le sens où pour faire. On vient d'abord pour se faire pardonner les péchés. Donc les péchés sont là, on va simplement, voyez. Donc ne pas avoir peur d'aller voir le prêtre parce qu'on a l'impression de ne pas progresser, ni que la confession sert à rien. Se dire toujours, mais je me confesse et je ne fais pas moins de péchés, donc la confession ne sert à rien. Non, je me confesse, mais si je ne me confesse pas, j'en fais encore bien plus que ce que j'en fais. Et donc, il faut que j'aille me confesser. La deuxième chose, c'est la peur d'accuser ses péchés. Alors là, vous voyez, insistons sur cette question, soyons bien tranquilles en allant se confesser. La confession, c'est un don de Dieu, c'est un sacrement qui est un don de Dieu, donc qui est pour le bien des personnes. Donc il faut le recevoir comme un don de Dieu. Ce n'est pas un instrument de torture, ça a un côté pénible, mais ce n'est pas un instrument de torture. Donc c'est un instrument pour faire du bien aux âmes. Et donc allons-y, c'est pour notre bien. Voyez, il n'y a pas de péché, aucun péché qu'on ne puisse cacher, que comment dire, qu'il faille avoir honte d'accuser. Aucun. Le prêtre est l'instrument du bon Dieu. Ce n'est pas Monsieur l'abbé Dupont, Monsieur l'abbé Durand, c'est l'instrument du bon Dieu. Et il est prêt à tout entendre, il a tout entendu, et voilà, et c'est tout. Le principal dans la confession, ce n'est pas ce que fait le pénitent, c'est ce que fait le prêtre. Donc c'est la sixième partie, c'est l'absolution. Le pardon de Dieu. Il est un acte de justice, il y a un jugement. Le prêtre vous juge. Il y a un prêtre, un vieux curé qui disait à son enfant de cœur, après la messe, quand l'enfant avait servi, l'enfant venait se confesser, il lui disait « Maintenant, je vais te juger ». Et c'est exactement ça. Il y a un acte de jugement, jugement sur les péchés commis, sur les dispositions du pénitent. Mais c'est aussi une miséricorde. Il y a une alliance dans le sacrement de la justice et de la miséricorde. Et la justice et la miséricorde se trouvent alliées en Dieu précisément. Est-ce que nous disait Mgr Chevreau dans la retraite, le principal, c'est l'absolution du prêtre. Le principal, disait-il, c'est pas l'enfant prodigue, c'est pas l'aîné, c'est le père. Eh bien, le principal dans la confession, c'est Dieu, ce que fait Dieu. Et ce sacrement est grand parce que il est une œuvre de miséricorde et de justice, une œuvre de miséricorde, et en ce qui est une œuvre de miséricorde, toute l'incarnation rédemptrice est une œuvre de miséricorde. Donc il y a une affinité particulière entre le mystère du Christ et la confession. Notre Seigneur se présente en disant « Je suis venu appeler les pécheurs. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. » C'est précisément dans le sacrement de pénitence qu'il le fait. Donc il y a une affinité particulière, voyez. Notre Seigneur a passé toute sa vie publique à pardonner. Donc là, nous connaissons mieux le cœur du Christ à travers la confession. C'est un moyen aussi de progresser dans la connaissance de la charité du Christ dont nous parle saint Paul. C'est le sacrement de la pénitence. On va prêcher. Bon, il faut bien sûr faire sa pénitence, surtout la faire avec dévotion, vous voyez. C'est important. Saint Thomas insiste beaucoup sur la charité, l'amour avec lequel on fait la satisfaction. Il vaut mieux dire un Ave Maria en pénitence de tout son cœur, lentement avec charité, plutôt que trois rosaires de façon distraite. Après la confession. D'abord, pas de retour, de façon ordinaire. Seuls les péchés qu'on aurait vraiment oubliés, de façon certaine, doivent être réaccusés. Alors, si on les a cachés, c'est autre chose. Mais si on les a oubliés, eh bien, il ne faut pas revenir exprès pour se confesser. Attendez simplement la prochaine confession. Et lors de la prochaine confession, qui sera un mois, tous les mois, si vous confessez tous les mois, eh bien, on accuse son péché. Mais ne pas se retourner sur ces confessions, surtout les confessions générales, en disant, mais alors, est-ce que j'ai oublié ceci? Est-ce que je n'ai pas bien dit? Est-ce que je n'ai pas bien dit? Parce qu'à ce moment-là, on est poussé à refaire des confessions, donc il y a une inquiétude, une irrésolution qui augmente. S'inquiéter trop de l'efficacité de la confession, c'est s'inquiéter trop de ses propres capacités. Mais le sacrement ne dépend pas de notre capacité, il dépend de la bonté de Dieu et de la force de Dieu. Donc il faut avoir confiance en Dieu. Ne pas avoir confiance dans l'efficacité de la confession, c'est manquer de confiance dans la miséricorde et la puissance divine. Ne pas trop se demander, ai-je bien fait ma confession, mais ai-je bien voulu la faire? Ai-je voulu bien la faire? Est-ce que j'ai voulu tout dire? Oui. Ah. Alors si vraiment je suis sûr d'avoir oublié quelque chose, j'en parlerai. Si j'ai bien voulu tout dire, ma confession était intègre, formellement. Alors donc, on vous conseille de vous confesser pendant cette retraite. confessé depuis, avec, en faisant une accusation depuis combien de temps? Alors, une première solution, c'est depuis la dernière confession. C'est bien, c'est suffisant. Ce qui est mieux quand on peut, c'est par exemple c'est une confession générale, mais qui peut être générale de façon différente. Ça peut être par exemple une confession générale depuis la dernière retraite. Ou alors une confession générale depuis la dernière confession générale. Bon. Si c'est votre première retraite, il est recommandé de faire une confession générale de toute la vie. Donc c'est une recommandation, c'est pas une obligation. De même, c'est pas une obligation stricte, mais c'est une recommandation. Là, vous pouvez demander au prêtre. Vous voyez, demander au prêtre, c'est ce qui va... Parlez-lui simplement. Oui. Il faut aller facilement au prêtre. Vous voyez, n'ayez pas de crainte d'aller les voir, même d'aller les voir à nouveau. En dehors des instructions, bon, le directeur de la retraite a dû vous le dire, nous sommes à votre disposition pour ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de déranger. Donc, c'est pour ceux qui le désirent, donc, il y a un examen de conscience en sortant de la salle. Avant d'aller à l'église, vous pouvez le prendre, il est là, hein, sur le bureau.